Radio.
Radio. Radio. Radio.
Pirate !
Bonsoir, vous écoutez, tant qu'il le faudra, l'émission féministe de Radio Pirate, la radio qui pirate le confinement, tous les soirs à 21h. Vous venez d'entendre À quoi vous servez l'espoir de toute façon de Yann Arth Lemonnier sur l'album Le Partage des Griefs. Le titre laisse peut-être à désirer, c'était quand bien même une très bonne musique pour commencer une très chouette émission. Ce soir, en effet, nous allons parler de littérature. Et pas n'importe laquelle, de littérature lesbienne. De la littérature écrite par des femmes qui aiment les femmes pour d'autres femmes. Cette littérature est dense et son histoire remonte à quelques milliers d'années derrière nous, c'est dire si elle est passionnante. Nous n'en ferons clairement pas un tour complet ce soir, mais nous espérons vous donner l'envie de la découvrir ou de la redécouvrir. Je ne suis pas seule pour cela, ce soir je suis accompagnée d'une autre pirate féministe. Bonsoir Sophie.
Salut à tous et à toutes.
Ce soir, nous parlerons plus précisément de la littérature lesbienne musulmane, de l'impact qu'a cette littérature sur les femmes musulmanes à travers notamment le tout premier livre de Fatima Das sorti récemment, très très bon livre d'ailleurs, La Petite Dernière aux éditions Noir et Blanc. Pour cela, j'ai le plaisir, que dis-je, l'honneur d'inviter ce soir Jazz qui tient le compte Instagram Les Gouines Écrivent. Bonsoir.
Bonsoir.
Ça va, tu te sens prête pour cette émission?
Oui, ça va, super. Merci de m'avoir invité.
Ah ben merci à toi de venir, c'est trop cool, j'aime beaucoup trop ce que tu fais, donc du coup je suis très contente. Nous ferons également un petit topo rapide sur ce qu'est la littérature lesbienne, mais juste avant ce programme chargé, nous vous proposons une pause musicale, histoire de vous laisser le temps de vous installer avec Pianographe sur Radio Pirate. Et de retour sur Radio Pirate, quelques secondes, petit aléa du direct, faut que voilà, je retrouve mes notes pour l'émission. Bonsoir, c'est Radio Pirate et la radio qui pirate le confinement tous les soirs 21h avec une animation qui est très très pirate. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et c'est-à-dire très souvent une très mauvaise connexion Internet, merci. Alors, je vous demanderai quelques secondes, on a écouté du coup Pianographe. Très bonne musique de surcroît. On est donc sur Radio Pirate. Cette émission, tant qu'il le faudra, est consacrée à la littérature lesbienne. Mais la littérature lesbienne, qu'est-ce que c'est basiquement ? Si les premiers textes que nous pouvons qualifier de lesbiens nous viennent notamment de l'Antiquité, les rares textes pour la part des poèmes élogieux à l'égard de déesses, on pense notamment au très célèbre poème Ode à Aphrodite de la poétesse grecque Sappho, toi dont le trône étincelle, immortelle Aphrodite, fille de Zeus, ourdisseuse de larmes, je t'implore. Sappho, célèbre au point que le terme lesbienne vient du gentilé donné aux femmes vivant sur l'île où elles vivaient, l'île de Lesbos. La littérature lesbienne, c'est cette œuvre, cette création des femmes pour elles-mêmes, au caractère éminemment émancipateur qui traversa toute une histoire, souvent en silence. L'histoire avec un grand H, celle des hommes, la seule grande histoire, l'unique. Celle-là n'a jamais eu grand intérêt à mettre en avant une littérature qui pouvait, même parfois voulait, se construire en dehors de cette histoire avec un grand H. La littérature lesbienne, depuis, a pris des formes différentes, des romans ou autres histoires diverses, la musique, le cinéma, qui sont aussi d'autres formes de littérature. La littérature lesbienne, c'est aussi cette pensée théorique, radicale, énoncée dès les années 60, notamment par Monique Wittig, dont nous parlerons en fin d'émission, Adrienne Rich et tant d'autres. Tout cela forme ce qu'Alice Coffin, journaliste et élue écologiste à la mairie de Paris, a récemment nommé génie lesbien. C'est ce génie que nous voulons honorer ce soir, et si je dois vous conseiller une œuvre, si vous voulez en apprendre un peu plus sur cette histoire lesbienne, c'est le livre « Histoire de l'homosexualité féminine » de Louise-Marie Libert. C'est très dense, ça brasse toutes les époques, mais c'est très clair, c'est très simple à lire, et c'est pas très long. C'est une bonne introduction, en somme. En parlant d'introduction, celle-là en est une autre, celle que je viens de vous faire, et elle se termine. Je me tourne maintenant vers notre invité, Jazz. Notre invité, du coup, ce soir, je le rappelle, qui tient le compte Instagram Les Gwyn écrivent. Bonsoir, Jazz.
Bonsoir, Marlène.
Est-ce que tu peux, du coup, un peu te présenter un peu ton projet, ton compte? C'est quoi, finalement, le but derrière? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Alors, je m'appelle Jazz, j'ai 25 ans. Je suis en train de finir un double master en littérature et en management. Et je me qualifie de lesbienne radicale, musulmane, maghrébine et juive. Et j'ai créé Les Gwyn écrivent parce que je pense qu'il y avait un besoin. J'ai comme toi apparemment lu le livre Le génie lesbien d'Alice Coffin. Et je me suis rendu compte de l'importance de la visibilité et de l'importance de nous donner la parole. Et je me suis dit qu'il était très très important de donner accès aux internautes, aux gens qui sont intéressés mais qui ne trouvent pas forcément... les références et les textes, de leur donner accès à cette littérature. Je suis pas la première à avoir fait ça. Je cite notamment le compte Instagram Roman Lesbien. Mais à la différence de Roman Lesbien, je crois que je veux aussi apporter de la théorie. Donc je ne m'appuie pas que sur des textes de fiction et je parle plutôt de théorie aussi et de théorie concernant le lesbianisme radical. Voilà l'enjeu du compte, la visibilité toujours.
Bah, évidemment, c'est toujours hyper important pour avoir de la représentation aussi, pour se construire en tant que lesbienne. Toi, un peu le sujet dont tu voulais aussi nous parler ce soir, c'était la littérature lesbienne musulmane. Quelles sont les particularités, selon toi, d'une littérature lesbienne musulmane, et quels enjeux spécifiques ça a de se dire musulmane quand on est lesbienne? Je sais que tu faisais récemment référence sur Twitter au système de la marge au centre théorisé par Bell Hooks. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur tout ça?
Oui, ce soir, quand tu m'as écrit, je t'ai dit que j'allais te parler plutôt de littérature lesbienne, mais qui inclut des personnes, des femmes musulmanes, même si les lesbiennes ne sont pas des femmes. Bon, enfin.
Et donc... yes. On y reviendra.
En fait, je pense que En fait, j'ai pris cette parole parce que j'ai voulu présenter ça parce que c'est quelque chose qui existe trop peu. Et je me suis rendu compte de l'importance de cette parole il y a quelques années lorsque j'ai rencontré Salima Amari qui a écrit une thèse qui s'appelle « Lesbienne de l'immigration ». Et en fait, dans cette thèse, elle explique le vécu complexe et parfois très difficile des lesbiennes de l'immigration. Et donc, j'avais rencontré à cette époque, lors d'une conférence, et je m'étais rendu compte que j'ai beau avoir lu beaucoup, beaucoup de livres. Et en plus de cela, ça fait bientôt 3 ans que je travaille pour le magazine Hétéroclite, qui est un magazine LGBT. Et je m'occupe de la section, enfin de la partie essais et idées. Et donc, j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres LGBT. Et c'était quelque chose qui manquait vraiment. Et j'ai toujours été dans la recherche d'une représentation. Et je cherchais des personnes qui me ressemblaient, des femmes qui me ressemblaient, des lesbiennes qui me ressemblaient. Et c'était assez difficile. Et j'ai trouvé ça très triste que la première fois que j'ai accès à ça, ce soit une thèse. Donc, ce soit très universitaire, très dur, assez difficile d'accès. Et je me suis dit qu'il manquait quelque chose. Mais on est encore dans l'attente. Et moi, si j'ai décidé de parler de ça ce soir, c'est parce que ça coïncide avec la rentrée littéraire. On n'est pas très loin. Enfin, maintenant, ça fait un petit bout de temps, mais quand même, avec l'œuvre de Fatima Daz, La Petite Dernière. Donc, cette œuvre, c'est une œuvre qui a été écrite par Fatima Daz, comme tu l'as dit. Et c'est une œuvre qui est très importante pour les lesbiennes musulmanes. Et je pense que lorsque tu me demandes quels sont aujourd'hui les enjeux, qu'est-ce que ça apporte, je crois que ça apporte juste de la nouveauté et quelque chose qui n'existait pas. Je sais que la première chose que j'ai ressentie lorsque j'ai lu l'œuvre de Fatima Daz, ça a été de la tristesse. Parce que j'avais l'impression que quelqu'un d'autre que moi écrivait mon histoire et que lorsque vous n'avez pas le contrôle et que vous savez que vous êtes en train d'être écrite, quoi, mais que c'est pas vous qui l'avez écrit, ça fait mal et c'est assez inconfortable. Et je crois qu'aujourd'hui, avec l'islamophobie qu'on subit, avec la lesbophobie qu'on subit, la misogynie, c'était très très important de retrouver dans une œuvre comme ça. Et je pense que ce que Fatima Daz a fait, donc elle a appelé son œuvre La Petite Dernière, mais moi lorsque je l'ai rencontrée, je lui ai dit que c'était la grande première. C'est quelque chose qui marque l'histoire littéraire française, mais l'histoire littéraire lesbienne et musulmane. Je ne sais pas si les auditeurs ont lu l'œuvre, mais c'est quelque chose de très nouveau, de très frais, de très poétique. Et c'était pour ça que j'ai parlé de ça. Les lesbiennes représentent une minorité, mais alors les lesbiennes musulmanes, c'est pas une minorité, c'est la minorité de la minorité, quoi. Et donc, lorsque tu m'as demandé de participer à cette émission de radio, je me suis dit que s'il y avait bien un discours que je devais porter, c'était celui-ci pour toutes les femmes, les lesbiennes, les musulmanes, les petites sœurs qui m'écoutent et qui n'ont pas pu encore lire ou qui ont déjà lu l'œuvre de Daz. Lorsque j'ai parlé pour répondre à la deuxième partie de ta question, lorsque j'ai parlé de Bellouk, qui a écrit, donc Bellouk, qui est une théoricienne afroféministe et qui a notamment écrit Ne suis-je pas une femme américaine, lorsque j'ai parlé de La marge au centre, qui est l'un des titres c'est le titre d'une de ses œuvres, ce dont je voulais parler, et je vais essayer de l'expliquer, c'est qu'en fait, moi qui ai fait des études de littérature, j'en ai lu des textes, énormément. Et en France, le texte de référence, la religion référente dans les textes, c'est le christianisme. Et il arrive aux personnes comme moi, par exemple, qui n'ont pas forcément de culture chrétienne, de ne pas comprendre certains textes, donc se retrouver à la marge. De ne pas comprendre certains textes, parce qu'en fait, même si vous essayez de vous poser, d'interpréter, etc., quand il vous manque les références bibliques, il vous manque une grosse partie du texte. Et donc, j'ai souvent été, même en faisant des études de littérature, mise à la marge. Et lorsque j'ai lu l'œuvre de Daz, j'ai eu l'impression que les marginalisés, donc notamment, bah là pour le coup, les musulmans qui n'avaient pas tous une culture chrétienne, étaient mis au centre de l'œuvre. Parce qu'en fait, le texte, enfin la religion référente du texte de Daas, c'est l'islam. Et parce que c'est l'islam, on replace au centre les marginalisés. Et c'est les marginalisés qui ne comprenaient pas peut-être certaines références à d'autres textes, qui se mettent à comprendre ce texte, ses références, c'est sa portée, alors que d'autres personnes qui peuvent comprendre les textes canoniques français sont peut-être un peu plus perdues. Et donc c'était de ça que je voulais parler, du fait en fait de mettre au centre des personnes marginalisées et, d'inverser le rapport de pouvoir. Lorsque j'ai rencontré Fatima Daas, je lui ai demandé si c'était politique, si ça avait été fait exprès, et elle m'a répondu que non, en fait, qu'elle avait juste voulu parler d'elle, et qu'elle ne s'était pas rendue compte que ça allait prendre cette ampleur, et qu'elle s'est rendue compte lorsqu'elle a vu le traitement médiatique, qu'effectivement, c'est ce qu'elle avait fait, mais elle ne s'en était pas rendue compte. Et donc, c'était ça qui était important pour moi, de replacer au centre de la discussion les personnes qui sont marginalisées. Et doublement marginalisé pour le coup.
Pour revenir un peu plus précisément à la petite dernière, est-ce que tu veux un peu plus nous parler de ce livre ? Tu nous liras peut-être un extrait juste après. En quoi, du coup, pour toi, l'histoire de l'autrice, pour venir un petit peu avant sur tout ce que tu disais, qui était hyper intéressant, en quoi, du coup, pour toi, l'histoire de Fatima Daas, elle est importante pour comprendre le vécu en général des lesbiennes musulmanes. Est-ce que pour toi, surtout, est-ce que pour toi, en fait, ce livre, il peut marquer l'histoire de la littérature lesbienne et comment il peut la marquer ? Tu en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que tu as envie un peu de préciser cette chose-là ?
Je pense que ce livre peut marquer l'histoire de la littérature lesbienne, mais je ne sais pas de quelle histoire de la littérature lesbienne on parle. Dans le sens où je pense qu'il peut marquer l'histoire des femmes racisées, maghrébines, musulmanes, mais je ne sais pas s'il va marquer les femmes blanches, athées. Je ne suis pas sûre que ce soit un texte de référence pour elles. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas très grave, parce que ce n'est pas vraiment écrit pour elles non plus. Donc, pour moi, ce texte, il marque un tournant dans ma vie, dans la vie de mes amis, de mes amantes. Mais je ne suis pas sûre qu'il marque un tournant dans la vie de chaque lesbienne, parce que je ne suis pas sûre qu'il puisse parler à tout le monde. Et ce n'est pas très grave. Pour en revenir à l'œuvre de Fatima Daas, la petite dernière, c'est l'histoire de Fatima. C'est une jeune fille qui habite en banlieue parisienne, donc qui vit plusieurs oppressions. Donc déjà, bah, c'est une petite fille, elle est d'origine algérienne, mais elle est française. Elle est musulmane et elle habite en banlieue parisienne. Et donc, elle parle beaucoup de son rapport au temps, de son rapport au transport, comment aller sur Paris. Donc, elle se sent exclue de Paris. Et puis, parfois, elle se sent aussi exclue de sa famille parce qu'elle n'est pas tout à fait comme le reste de sa famille. Et elle se sent exclue du monde lesbien et LGBT parce qu'elle n'est pas non plus tout à fait comme les personnes qu'elle rencontre dans ces milieux-là. En fait, son histoire, c'est sa vie. Mais au moment où elle écrit, elle n'a que 28 ans. Donc, ce n'est pas la fin de sa vie, c'est le début. Comment ça commence, comment ça se met en place. L'histoire commence avec le personnage de la mère et finit avec le personnage de la mère. Et que je voudrais dire, c'est que Fatima Daas, c'est aussi le pseudonyme de l'autrice. Et c'est pas forcément son vrai prénom, en fait. C'est pas son vrai prénom. C'est juste qu'elle a voulu interpréter le personnage. Elle a écrit l'histoire. Elle a écrit « Je m'appelle Fatima Daas ». Et ensuite, à partir de là, lorsqu'elle a fini son œuvre, elle a décidé qu'elle prendrait ce pseudonyme pour interpréter, pour incarner son personnage. Donc, en fait, l'autrice et l'incarnation du personnage principal, et si elle existe, c'est pour que les jeunes filles lesbiennes, musulmanes, se sentent représentées et trouvent une représentation. Ça raconte l'histoire d'une fille asthmatique qui a beaucoup d'autres problèmes que son homosexualité. Enfin, elle n'arrive pas à respirer parce qu'elle est asthmatique, mais aussi peut-être parce qu'elle est lesbienne et que c'est difficile d'être lesbienne. Et puis elle essaye de faire des études, mais c'est tellement loin pour aller à Paris. Et c'est tellement difficile. Et puis elle est aussi, on l'accuse un peu plus d'avoir triché, parce que bon, elle est arabe, donc c'est pas normal qu'elle ait des aussi bonnes notes. Et puis elle sait pas trop comment on aime. Alors est-ce qu'elle est polyamoureuse? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Est-ce qu'elle est amoureuse de Nina ou pas? Elle étouffe. Et je pense que les lesbiennes étouffent dans cette société, mais que les lesbiennes musulmanes survivent. Vraiment. Et l'idée d'étouffer, de suivre sa vie, de se dire « Ah oh, putain, elle va voir dans l'œuvre !» Le personnage principal passe sa vie, enfin, du moins les 28 premières années de sa vie, à chercher quelqu'un qui l'aiderait à se sentir valide. C'est-à-dire qu'elle va voir des sœurs, elle va voir des imams, elle va voir des psychologues pour que quelqu'un lui dise « c'est ok ». Et en fait, mais je l'ai déjà fait toute ma vie. Et toutes les femmes lesbiennes, musulmanes que j'ai rencontrées l'ont déjà fait. Aller sur Internet, lire des livres, se dire « ok, j'existe, ok, est-ce que c'est bien ?» Et en fait, à la fin, ce qui est beau, c'est qu'on ne sait pas si c'est bien ou si c'est pas bien. On ne sait pas si c'est péché ou pas. Et ce n'est pas ce qu'on essaye de faire. Lorsque j'ai vu la façon dont on a accueilli cette œuvre, je me suis dit, ah ouais, vraiment, il y en avait besoin. Parce que inviter l'auteur pour lui poser des questions sur la guerre d'Algérie, sur le fait que ce soit péché, sur le fait... lui parler du terrorisme, de l'islam comme politique, et lui dire « mais qu'est-ce que vous en pensez ?» C'est là que je me suis dit « on est passé à côté de l'œuvre, en fait. » Et Fatima Das, elle n'est pas politicienne, elle n'est pas de la politique, elle est autrice. Et on lui enlève son pouvoir, on lui enlève son droit à imaginer, son droit à créer, parce qu'elle parle de sujets qui clivent. Et c'est pour ça que c'est un texte qui est important. La façon dont il a été reçu m'a prouvé qu'il était important. Quand j'ai vu que Léa Salamé avait demandé à Fatima « Alors pour vous, l'homosexualité, c'est péché ?» Et qu'elle a répondu « Bah oui, pour moi, c'est péché et je ne suis pas là pour créer une nouvelle religion, en fait, ou pour changer une religion qui existait déjà. » Et que j'ai vu comment les lesbiennes, les gays, les personnes de la communauté LGBT, athées, ou du moins croyants, mais progressiste, enfin, je crois, on réagit en la jetant au loup. Je me suis dit, mais vous êtes passé à côté de quelque chose. Il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris, en fait, dans l'art et dans le fait d'exister. Nos existences, elles sont contradictoires. Et si le but d'une vie, c'est de... Si pour vous, le but d'une vie, c'est de vivre sans contradiction, très bien, soit. C'est pas le but de tout le monde. Moi, par exemple, je suis très, très féministe et je sais que s'épiler, c'est une création du patriarcat et je m'épile. Et pourtant, on ne me jette pas au loup, on ne dit pas que je suis une fausse féministe et que mes contradictions sont horribles. Et c'est ça que j'ai trouvé important, vivre avec ces contradictions. Parce que les lesbiennes musulmanes existent et ce n'est pas en leur disant... qu'il faut qu'elles choisissent, qu'elles choisiront, pardon. On ne peut pas choisir. Et ce n'est pas très grave de vivre avec des contradictions. Un roman, ce n'est pas un tract politique. Et là, je cite Maryse Condé. Un roman, c'est juste le pouvoir d'imaginer, de créer, et ensuite s'interpréter. Être engagé, ce n'est pas poser des questions et donner les réponses. Être engagé, c'est poser des questions. Et il n'y a pas forcément de réponse. Et c'est pas très important s'il n'y en a pas. Le but, c'est de poser les questions et ensuite, chacun décide de faire son chemin. Et je pense que c'était ça qui était important pour moi. Vivre avec ses contradictions. Péché, pas péché. Lesbianisme, féminisme. Radicalité, pas de radicalité. Faut pas essayer d'aller plus loin que ce que l'œuvre nous offre. C'est-à-dire juste une belle histoire
avec de la visibilité, une belle représentation et quelque chose de nouveau et de frais. Je crois avoir répondu à ta question, un peu longuement.
Non, non, c'était très bien, justement, d'avoir pris le temps de répondre à tout ça. C'était hyper intéressant, c'était hyper pertinent, enfin, c'était hyper beau. Merci,
merci
beaucoup. Est-ce que, pour finir un peu cette interview, tu voudrais nous lire un passage du livre de Fatima Das?
Alors, j'ai choisi un passage assez court, mais qui, pour moi, représente une certaine condition de femme lesbienne et musulmane qui vit avec ses contradictions. Je m'appelle Fatima Das. Je suis musulmane. Alors j'ai peur que Dieu ne m'aime pas, qu'il ne m'aime pas comme je l'aime, qu'il ne m'abandonne, de ne pas être celle que je devrais, de remettre en question ce que Dieu m'a commandé de faire, d'être livrée à moi-même, de me réveiller en pleine nuit, terrifiée. Je parle à Allah, le tout miséricordieux, quand je fais mes 5 prières. Il m'arrive d'être déconcentrée, d'être submergée par des pensées. Je tente de me recentrer, de me détacher de ce bas monde qui semble être ma préoccupation principale. J'estime ce moment d'échange avec Allah. Dieu n'a pas besoin que je prie pour lui. C'est moi qui en ai besoin. Je pense être hypocrite. J'ai péché. J'ai cessé de pécher. J'ai péché de nouveau. Je m'appelle Fatima Das. Je suis une pécheresse.
Merci beaucoup pour cette lecture. C'est un très beau passage. Si vous n'avez pas déjà eu à l'idée d'aller courir demain matin dans la première librairie qui fait du click and collect près de chez vous pour aller lire la petite dernière de Fatima Das, je vous conseille vraiment de le faire parce que c'est vraiment très très bien et notre invité l'a très très bien décrit ce livre, c'était vraiment très beau, merci beaucoup. Sophie, est-ce que tu veux réagir un peu par rapport à tout ça avant de passer à ta superbe chronique sur Monegjitig?
Difficile de parler après cette jolie lecture. C'est un roman que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Et j'aime ce que tu disais au début de savoir si ce roman allait changer les choses pour des lesbiennes blanches et athées. Moi, je crois que pour moi, ouais, ça va quand même changer des choses. C'est un roman qui est plein de poésie et qui est doux à lire et doux à se remémorer. Et c'est un joli roman et qui fait du bien dans une littérature qui n'en fait pas souvent. Donc pour moi, c'est un roman dont je me souviendrai, en tout cas.
Sophie, tu nous as préparé une chronique pour finir un peu doucement cette émission vers une ouverture. On reviendra un petit peu avec Jazz tout à l'heure sur... Voilà, sur tout ce qu'elle a pu dire, sur la petite dernière, sur tout ça. Du coup, une chronique sur Monegjitig, je te laisse la parole pour la présenter.
Bah oui, comment parler de littérature lesbienne sans parler de Monegjitig? Elle est née en 1935 et puis elle est autrice de fiction, militante féministe, théoricienne. Elle se revendique du féminisme matérialiste, un courant qui analyse donc les rapports de domination en termes de classe, celle des hommes et celle des femmes. Monegjitig, elle a été militante pionnière du MLF et des Gouines Rouges dans les années 70, et c'est elle qui, par ses écrits, ses travaux, ses réflexions, a beaucoup fait pour réinventer la langue et puis reconstruire un langage un peu différent. Dans son livre Le Chantier littéraire, elle en parle de cette réinvention de la langue et de l'utilité d'écrire. Elle explique, je cite, « Tout travail littéraire important est, au moment de sa production, comme un cheval de Troie. Toujours, il s'effectue en territoire hostile, dans lequel il apparaît, étrange, inassimilable, non conforme. Puis, sa force, sa polysémie et la beauté de ses formes l'emportent. La cité fait place à la machine dans ses murs. Il faut qu'elle soit adoptée pour accomplir son travail de minage et de sa page des conventionnels et les dévoiler comme périmées, incapables d'opérer des transformations. » Alors, Monegjitig, elle a donc élaboré toute une théorie littéraire pour... subvertir la langue, et puis elle a aussi élaboré une réflexion tout autour du lesbianisme que je voudrais vous expliquer en quelques mots, et promis, on parlera littérature juste après. Mais dans son ouvrage théorique, La pensée straight, publié en 1992, elle critique les dômes hétérosexuels. Elle part du postulat que la pensée hétérosexuelle constitue un régime politique et un contrat social, la domination des hommes sur les femmes. L'hétérosexisme fonde donc la société patriarcale et l'identité du groupe social des femmes se fait en dépendance de celui des hommes. Et donc, La phrase la plus célèbre de Monique Wittig, « Les lesbiennes ne sont pas des femmes », résume bien son idée principale. Les lesbiennes sont celles qui ont rompu le contrat social et qui s'émancipent d'un régime politique hétéro. Ce qui fait femme, c'est le rapport de domination entre hommes et femmes. Or, les lesbiennes, en refusant toute relation avec les hommes, se sortent de ce rapport de domination et ne sont donc plus des femmes. Mais revenons à la littérature. Monique Wittig développe dans ses fictions une approche particulière de la langue. Elle expérimente une grammaire nouvelle, elle refuse d'utiliser des marques de féminisation pour les femmes, et va donc faire disparaître la distinction essentialiste de genre. Et je cite, elle dit, elle souhaite dérober au masculin l'universalité. Dans Le Poponax, qui est son premier roman, elle utilise le pronom « on » qui ne porte pas de marque genrée. Elle explique d'ailleurs, je cite, « avec ce pronom qui n'a ni genre ni nombre, je pouvais situer les caractères du roman en dehors de la division sociale des sexes et l'annuler pendant la durée du livre. Elle crée des lieux hors du genre dans ses livres. » Une autre proposition, dans Le corps lesbien, un autre ouvrage plus poétique, elle découpe le pronom « je » en l'écrivant « j/e » pour déconstruire le genre grammatical. Et puis, dans Les guerrières, elle emploie le pronom « elle » comme générique neutre et le pronom « il » apparaît pour ne servir que le masculin. Ce roman, Les guerrières, est une épopée féministe et révolutionnaire qui raconte la vie d'une communauté exclusivement féministe. Monique Wittig y invente tout et dit, je cite, « tu dis qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce temps ». Tu dis qu'il n'existe pas, mais souviens-toi, ou à défaut, invente. Monique Wittig a signé aussi un dictionnaire inachevé, des pièces de théâtre et d'autres récits, et bref, elle invente, elle recompose la langue et nous donne à entendre des écrits lesbiens. Voilà, Monique Wittig, qui fait de la littérature.
Très très bien, merci beaucoup Sophie. Est-ce que tu as une réaction, est-ce que tu veux parler un peu de ça, toi, Jazz, ou...
De Monique Wittig?
Ouais, nous parler un peu de Monique Wittig, si tu en as l'envie. L'envie, le courage, que sais-je.
Wow, le gros poisson. Ah, Monique Wittig, elle a été très, très importante pour ma théorie, mais aussi pour mon rapport à la littérature. C'est quelqu'un qui, dans Les guerrières, notamment parce que Le Poponax, qui est son premier roman, est très bon, mais moi, Les guerrières me parlent d'autant plus parce que je suis très, très radicale et j'aime la bagarre. Mais dans Les guerrières, elle a décidé en fait de... Le « il », donc le neutre, la norme, devient le « elle ». Et pour moi, c'est quelque chose qui a, changé qui a beaucoup changé mon rapport à la littérature. C'est une histoire de femmes d'Amazon, entre guillemets, qui vivent entre elles, qui ont des libertés, qui sont très, très, très indépendantes. Et puis, il y a des hommes qui décident... de restreindre leur liberté. Et donc, la deuxième partie du roman, c'est la bagarre et c'est la guerre. Wittig écrit très bien, mais elle écrit objectivement d'une façon assez, entre grosses guillemets, élitiste. Et elle n'est pas vraiment tout le temps accessible. Donc, c'est quelqu'un que... Enfin, c'est une auteure, une théoricienne que j'apprécie beaucoup parce que je pense qu'elle a fait beaucoup pour le lesbianisme radical et le lesbianisme français. C'est quand même l'une des premières à avoir théorisé l'hétéro-patriarcat comme système politique et comme construction mentale. Donc, c'est pour ça que sur le compte Instagram, j'essaye de la lire, parfois d'expliquer un petit peu ses théories parce que... c'est quand même un gros poisson, il faut se sentir. C'est le Proust des lesbiennes. C'est-à-dire, voilà, il y a Proust qui écrit des. Voilà, pour le lire, faut avoir les épaules. Et ben, de notre côté, il y a Wittig.
Wittig est pas des plus accessibles, mais je l'ai ressenti un peu comme ça aussi dans la manière de. Ne serait-ce qu'au niveau du langage, un peu de. Voir les différentes manières de considérer les choses à ce niveau-là et de replacer d'autres pronoms un peu dans la langue pour faire revivre un peu d'autres perspectives beaucoup plus féministes que notre langue actuelle. Et c'est vrai que c'est quand même très, très intéressant. L'émission, tout ça va toucher à sa fin. Je ne sais pas si voilà, y a quelque chose que vous voulez rajouter, un peu quelque chose... Voilà, un petit mot de la fin, on va dire. Je rappelle vite fait, Jazz, ton compte Instagram, c'est Les Gouines écrivent. Et justement, du coup, ça parle de littérature lesbienne et c'est beaucoup trop cool. Votre mot de la fin, du coup, si vous avez quelque chose à rajouter, un truc, un conseil de bouquin, que sais-je, quelque chose.
J'ai pas d'idée particulière de bouquin. Effectivement, lisez Wittig. C'est pas accessible, mais on peut lire. lisez Fatima Das aussi, parce que c'est beaucoup plus doux et accessible à lire et beaucoup plus réconfortant comme lecture. Donc, lisez.
Pour ma part, je terminerai par lisez Fatima Das, effectivement. Et puis, je terminerai par j'aimerais m'adresser aux femmes lesbiennes, musulmanes. C'est pas très très grave de vivre avec des contradictions et de croire qu'on est toute seule. On n'est jamais vraiment toute seule. Et j'aimerais, lorsque j'ai demandé à Fatima Das si c'était ok, si elle avait juste appris à vivre avec ses contradictions, elle m'a répondu, c'est d'accord de vivre avec des contradictions. Donc je la cite, j'ai pas les mots exacts, mais j'ai récupéré le compte rendu. Donc elle me dit, ce que j'essaye de dire depuis des mois, c'est que c'est ok de vivre avec ses contradictions. C'est pas grave s'il n'y a pas de solution. On vit ça depuis tellement longtemps en plus. Puis tout le monde est traversé par ça. Tout le monde est traversé par des contradictions. On peut choisir de les épouser ou pas. Mais moi, maintenant, je suis à l'aise avec mes contradictions. Et c'est juste ça que je voudrais dire. C'est ok de pas pouvoir dire A ou B, ou d'être dans une zone grise parfois, et de ne pas être sûr. C'est ok d'avoir peur, mais on n'est pas toute seule. Et il y a plein de filles comme moi, aujourd'hui j'ai 25 ans, et j'aurais aimé que quelqu'un me dise ça quand j'étais plus jeune. Mais la vie, ce n'est pas noir ou blanc. Et nos idées, enfin nos vies, ne sont pas univoque, et c'est pas grave. Lisez, regardez autour de vous, vous n'êtes pas seul, et la plupart du temps, vous êtes beaucoup plus que vous ne le croyez. Trouvez-vous, aimez-vous, et en tous les cas, moi, je vous aime. Et pour toutes les autres personnes qui écoutent, lisez-nous, soutenez-nous, et respectez-nous, et ce sera déjà très bien. Merci.
Merci à toi, Jad, du compte Instagram Les Gouines Écrivent. On se live, il est 21h45. Demain, il y aura d'autres émissions. Je vous invite à aller sur le Twitter de Radio Pirate pour avoir un peu plus d'informations, parce que moi, je ne les ai pas. Voilà, soyons honnêtes. Hein. On est sur une radio pirate. On n'est pas là pour faire dans la dentelle, ou que sais-je, même si la dentelle, c'est très doux et très joli. On se laisse avec une musique qui, là aussi, est surprise. Merci à vous.
Merci pour l'invitation.
Mais merci à toi d'être venu, et prenez soin de vous.